Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 43, Daf Mem Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Rabbi Rebbi Loshenaa, si Rebbi ne l'a pas enseigné dans notre Mishnayot, dans le Mishnayot, Rabbi Chia, qui était l'auteur de Braitot, Minayin Lo, d'où est-ce qu'il connaît la halakha? En d'autres termes, c'est une braïta sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. Si Rabbeinu HaKadosh lui-même n'a pas fixé la halakha, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une braïta qui a tranché la halakha. Amarle, alors Rabbi Nachum a posé la question suivante à Rabbi Avahu, comment est-ce que tu peux dire que nous fixons toujours la halakha comme une Mishnah enseignée sans auteur? Ve'atnan, voici que nous voyons une Mishnah dans Masechet Kelim, Perek Yud Gimel. Il s'agit d'ustensiles qui se sont abîmés. Nous voulons savoir à partir de quel moment ces ustensiles ne sont plus considérés comme des ustensiles, par conséquent, ils deviennent purs. Masrek shel pishtan, un peigne à lin, qui est un peigne grossier, shenitlu shinav, dont les dents ont été arrachées, venishtairu brushtaim, et deux dents sont restées dans ce peigne, tmeot, alors ce peigne est impur, parce que le lin n'est pas tellement emmêlé, même avec deux dents dans le peigne, il peut encore servir à peigner le lin. Ve'achat, Tehora. Par contre, s'il ne reste qu'une seule dent dans ce peigne devient impur, devient pur parce qu'il ne sert plus à rien. Vechulan shenitlu achat achat bifnatzman. Et à propos de toutes ces dents, si elles ont été enlevées une à une et on les a devant nous, tmeot, elles sont impures parce qu'elles peuvent servir soit à nettoyer une lampe, soit à accrocher un habit sur une planche pour l'étendre. Shel tzemer. Par contre, il s'agit d'un peigne à laine qui est plus fin, parce que la laine est beaucoup plus emmêlée. Shnitlu shina vachad mi bentaim tahor. Si une dent sur deux ont été enlevées, ce peigne devient pur parce qu'il ne peut plus, il ne sert plus à rien. Mishtai rubo shalosh memakom echad. Par contre, s'il reste trois dents consécutives dans un des endroits du peigne, alors tamé, ce peigne est impur, il peut encore servir à peigner la laine. Haita hachitzona achad mehem. Si une des trois dents qui reste était la dent extérieure, qui est une dent plus grosse, elle ne sert pas à peigner. Tahor, ce peigne devient pur. Parce qu'en fait, il n'y a que deux dents qui servent à peigner. Et cela ne suffit pas pour peigner la laine. Nitlu shtaim v'asan lemalket. Si il en a enlevé deux, ou deux dents sont tombées de ce peigne, et il en a fait une pince à épiler, une pincette, tmeot, donc elles sont impures parce que c'est un nouvel ustensile. Achat, si une dent a été enlevée, il l'a arrangé pour s'en servir pour nettoyer une lampe au lemitoir ou pour étendre un habit. Tmea, cette dent est impure. Vekaimalan, il a été établi, d'un halakha kota mishnah, que l'halakha n'est pas comme cette mishnah. Nous voyons donc que nous ne fixons pas l'halakha, nous ne fixons pas l'halakha comme une mishnah qui a été enchaînée sans auteur. Amarle, Rabbi Avahu lui a répondu, Barmina Dahi, ne m'apporte pas une preuve de cette mishnah, de Rabbi Yochanan Beresh Lakish d'Amre Tarvayu, parce que Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent tous les deux, Zou ena mishnah, cela n'est pas une mishnah, en d'autres termes, l'enseignement de cette Mishnah est erroné. La Gemara demande, Maïtama, pourquoi? La Gemara répond, Amar Avhuna bar Manoach, Mishme de Ravidi, Bered Ravika, Mishum de Kasha Resh Alisefa, parce qu'il y a une contradiction entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. De Katane, parce qu'il a été enseigné. Shel Tzemer Shenitlu Shinav Achat Mi Bentaim, Tahor. S'il s'agit d'un peigne à laine, dont une dent sur deux ont été enlevées, ce peigne ne sert plus à rien, il devient pur. Hanishtai Rubo Shtaim Makom Echad. Nous pouvons donc déduire de là que s'il reste deux dents consécutives dans un seul endroit, tamé, ce peigne restera impur, ou peut devenir impur, parce qu'encore, il peut servir encore à peigner. Behadar tané, et par la suite, la Braïta nous enseigne, Nishtai Rubo Shalosh, s'il reste trois dents consécutives, tamé, à ce moment-là, le peigne est impur. Shalosh in, Shtaim lo. C'est seulement s'il reste trois dents consécutives que ce peigne peut servir à quelque chose, et par conséquent, il devient impur. Par contre, s'il ne reste que deux dents, ce peigne ne sert plus à rien et par conséquent il reste pur. Donc nous voyons que de toute façon l'enseignement est erroné. La Gemara demande au Maïkushia, quelle est la contradiction? Dilma habegavaita. Peut-être puisqu'il y a deux rangées de dents dans le peigne à laine, la rangée intérieure sert juste à retenir la laine et celle qui est extérieure sert à peigner. Alors on pourra interpréter la Mishnah de la manière suivante. Là où nous comprenons de la Mishnah, où s'il y a deux dents consécutives, cela suffit, ce peigne sert encore à quelque chose, il sert il s'agit de la rangée intérieure. Là, deux dents consécutives suffisent à retenir la laine. Ha bebraïta. Là, dans la partie de la Mishnah qui nous enseigne qu'il faut trois dents consécutives pour que ce peigne soit considéré encore comme un peigne, il s'agit de la rangée extérieure qui sert à peigner. Là, s'il n'y a pas trois dents consécutives, ce peigne ne sert plus à rien. Donc finalement, il n'y a pas de contradiction dans l'enseignement de la Mishnah. La Gemara répond, « Ela me'acha ». Seulement, c'est d'ici qu'on voit que l'enseignement de la Mishnah est erroné. « Dekatane », parce qu'il a été enseigné dans la Mishnah à propos du peigne à lin. « Bechulam shenitlu achat achat bifnatzman tmeot » Et toutes ces dents qui ont été enlevées une à une, et elles sont là devant nous, elles sont impures parce qu'elles servent à quelque chose. « Vafalgar de l'itkina », même s'il ne les a pas arrangées, elles peuvent quand même servir à quelque chose, comme nous avons dit, à nettoyer une lampe ou à éteindre un habit. Et Masef, voyons voir la fin de la Mishnah. Achat vehitkina lener olemitoar. Si, à propos du peigne à laine, si une dent a été enlevée, il l'a arrangée pour pouvoir s'en servir pour nettoyer une lampe ou bien pour étendre un habit, tmea, elle est impure. Hitkina in, lo hitkina lo. Nous voyons donc que ce n'est que s'il l'a arrangée pour s'en servir qu'elle est impure, elle est considérée comme un ustensile, mais s'il ne l'a pas arrangée, elle ne devient pas impure. Donc nous voyons ici une contradiction entre les deux parties de la Mishnah. C'est pourquoi nous disons que l'enseignement de cette Mishnah est erroné. Dagmar répond, Amar Abaye. Bah, il dit, Umaykusha, quelle est la contradiction? Dilma, peut-être que, ha, bekatayhu. Dans la première partie de la Mishnah, il s'agit où les dents ont été enlevées avec un peu de bois qui les entoure. Donc, elles ont une espèce de manche. Et, par conséquent, elles sont considérées comme un ustensile, elles peuvent servir à quelque chose. Ha, belokatayhu. Par contre, dans la deuxième partie de la Mishnah, où on parle du peigne à laine, il s'agit là d'un cas où les dents ont été arrachées, mais sans bois qui les entoure. Elles n'ont pas de manche. Et par conséquent, il faut les arranger pour pouvoir s'en servir. Amar Rav Papa dit encore une autre réponse à cette contradiction. Umaykushia, quelle est la contradiction? Vedilma ha bekatinta. Peut-être que dans la deuxième partie de la Mishnah, donc du peigne à laine, il s'agit de dents fines, et par conséquent, s'ils ne sont pas rangés, elles ne peuvent pas servir. Ha bealimta, par contre, dans la première partie de la Mishnah, où nous voyons qu'une dent d'un peigne, sans être arrangée, est considérée comme un ustensile, il s'agit du peigne à lin. Comme nous avons dit, il s'agit de dents épaisses et qui peuvent servir même sans être arrangées. Donc finalement, nous ne voyons pas pourquoi l'enseignement de la Mishnah est erroné. La Gemara dit, Ela mishum de mesaim meba davkane, parce que ceux qui sont pointilleux dans la récitation de Mishnayot concluent l'enseignement de cette Mishnah, zu divrei Rabbi Shimon, cela est l'avis de Rabbi Shimon. Nous voyons donc que c'est un avis unique, c'est pourquoi la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Nous revenons maintenant au sujet enseigné dans le daf précédent, à savoir si une femme doit attendre 3 mois pour se refiancer. Shalach Rabbi Chia Baravin Me'arsin Toch Shlosha. Une femme peut se refiancer, donc se fiancer après un divorce ou la mort de son mari, pendant les 3 mois qui suivent ce divorce ou la mort de son mari. Vechen aussi Maase, et aussi j'ai vu les rabbanim faire ainsi. Vechen Aya Rabbi Lazar Melamdenu Mishum Rabbi Chanina Gadol, et aussi ainsi Rabbi Lazar nous enseignait au nom de Rabbi Chanina Gadol. Roubo shel Rishon, il suffit d'attendre la majeure partie du premier mois, Verubo shel Shlishi, et la majeure partie du troisième mois, Vemtsai Shalem, et le mois du milieu plein. Donc en fait, il s'agit d'un mois plein et de deux majorités de mois. Ils suffisent pour qu'une femme puisse se fiancer. Amemar Sharal Yares Biyom Tishim. Amemar a permis à une femme de se fiancer le 90e jour qui a suivi la mort de son mari ou son divorce. Amar le Ravashi la Memar. Ravashi a posé la question suivante à Memar. Vaha Rav Shmuel ou Shmuel d'Amre Tarvayu Tzricha Lamtim Shlosha Chodashim. Voici que Rav Shmuel disent tous les deux qu'elle doit attendre 3 mois. Chutz Miyom Shemetbo Vechutz Miyom Shinitar Sabo. À part le jour où son mari est mort et le jour où elle s'est fiancée. Donc il faut attendre 3 mois plein. Alors comment est-ce que Amemar a permis à une femme de se fiancer le 90e jour qui a suivi la mort de son mari? Alors Amemar a répondu. Hahu le Inyan Menekatitmar. Amimar a répondu que là où nous avons vu que Rav Shmuel ont enseigné qu'il faut attendre la période pleine à part le jour des fiançailles, Hahu Leinyan Meneket Itmar, il s'agit d'une femme en période d'allaitement. Des Rav Shmuel d'Amret Havayu, et donc l'enseignement est le suivant. Rav Shmuel disent tous les deux, Tzricha Lamdin Kavdalet Chodesh, une femme en période d'allaitement doit attendre une période de 24 mois, Chutz Miyom Shenoladbo, à part le jour où l'enfant est né, Chutz Miyom Shenitar Sabo, et à part le jour où elle s'est fiancée. Mais, pour attendre les 3 mois qui suivent la mort de son mari, là, elle n'a pas besoin d'attendre les 3 mois pleins. La Gemara demande, Veha Hahu De Avad Seudat Erusin de Yom Tishim. Voici qu'il y a une histoire où quelqu'un a fait un repas de fiançailles le 90e jour qui a suivi la mort du mari de le premier mari de cette femme. Vafsede Rava, les Soudate, et Rava a interdit ses fiançailles et par conséquent il a gaspillé ce repas. Agma répond, Hahui, Seudat Nisuyin Havai. Là-bas, il s'agissait d'un repas de mariage. Puisqu'il s'agissait d'un repas de mariage, il fallait attendre les trois mois pleins. Veil Cheta, la Gemara conclut que la halakha est la suivante. Tzricha le'amtin kavda le'trodesh. Une femme en période d'allaitement devra attendre pour se remarier ou se refiancer une période de 24 mois, chutz miyom shenolad bo, à part le jour où l'enfant est né, chutz miyom shenitar sabo, et à part le jour où elle se fiance. Utzricha le'amtin shlosha chodashim. Elle devra, et une femme, à la suite de la mort de son mari ou à la suite d'un divorce, devra attendre une période de 3 mois, chutz miyom shemetbo, à part le jour où son mari est mort, de chutz miyom shenitan sabo, et à part le jour où elle s'est fiancée. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit chutz min almana. Donc, la Gemara reprend le passage de la vie de Rabbi aussi, qui permet à toutes les femmes de se fiancer, sauf la veuve, qui devra attendre une période de 30 jours pour se fiancer à cause du deuil. La Gemara demande à Marav Frisda, Kal vachomer, on pourrait employer ici un raisonnement a fortiori, parce que nous dirons comme ça, Uma b'makom she asur lechabes, si déjà dans un endroit, donc à propos d'une autre période de deuil, où on n'a pas le droit de laver les habits, mutar leharis, on a quand même le droit de se fiancer, makom she mutar lechabes, là où on a le droit de laver les habits, c'est-à-dire pendant la période qui suit la période de 7 jours de deuil intense, on a le droit de laver l'habit avec de l'eau, si on ne le lave pas avec du savon pour les rendre propres comme neufs. Et no din shemutar leharis, alors à plus forte raison, n'est-il pas évident qu'on a le droit de se fiancer? Maihi. Magmar demande quel est le cas, quel est l'endroit de deuil où on a vu qu'on n'a pas le droit de laver les habits et quand même on a le droit de se fiancer. Agma répond, Etnan, on voit une Mishnah dans Masechet Tanit, Shabbat Shechal Tisha B'Av Betocha, la semaine où tombe le Tisha B'Av, Asur le Saper ou le Chabes, on n'a pas le droit de se raser et ni de laver les habits. Ou Bechamishi Moutar, et le jeudi, même s'il précède le Tisha B'Av, Moutar, on a le droit de le faire, Mekvo de Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Vetania, il a été enseigné dans une Braïta, Kodem Hazmanazé, avant ce moment, l'Agma comprend à ce stade de l'Agma qu'il s'agit d'avant Tisha B'Av, Ha'am Mema'atim Be'iskehem, Milissa ou Militen, les gens devront diminuer leurs affaires et de ne pas faire du commerce avant Tisha B'Av, Milivnot et aussi devront diminuer la construction, Velintoa et la plantation, ou Me'arsim, par contre, ils pourront se fiancer, Aval Lokonsin, mais ils ne pourront pas se marier, Ben Osim Soudat Erusim, et non plus, on ne pourra pas faire de repas de fiançailles. Donc, nous voyons ici que même pendant une période de deuil, on a le droit de se fiancer. Alors, à plus forte raison, là, donc après la période de 7 jours de deuil intense, où on a le droit de laver les habits, on aurait aussi le droit de se fiancer. On ne voit pas pourquoi donc Rabbi aussi interdit les fiançailles pendant la période de 30 jours qui suit la mort du mari. Nagma répond, Kitania ahi kodem de kodem. Quand la Braïta permet ou tolère les fiançailles, il s'agit de la période qui précède la semaine de Tisha B'Av. Et donc finalement, nous n'avons pas de preuve que pendant la semaine de Tisha B'Av, où tombe Tisha B'Av, on a le droit de se fiancer. La Gemara demande, Amar Rava, le Kodem de Kodem Nami Kal Vachomer. Même si on interprétera la Braïta comme s'agissant de la période qui précède la semaine où tombe Tisha B'Av, aussi nous pourrons employer un raisonnement a fortiori. Parce que nous dirons la chose suivante, Oma Bemakom Shasur Lisa Veliten, Mutar Leares, si déjà dans un endroit où le commerce est interdit, quand même les fiançailles sont tolérées, comme nous l'avons vu dans la Braïta, c'est-à-dire pendant la période qui précède la semaine de Tisha B'Av. Makom Shemutar Lisa Veliten, là où on a le droit, le commerce est permis, c'est-à-dire après les 7 jours de deuil intense, Enodin Shemutar Leares, n'est-il pas évident que les fiançailles seront permis? Nagma répond, Lotema de Rabbi Yossi Omer, Kolanashim Itarsu, on ne dira pas que Rabbi Yossi a dit que toutes les femmes ont le droit de se fiancer, et par conséquent, nous pourrions déduire de là que pendant la période de deuil, les fiançailles sont interdites. Et là, Emma, Kol Hanashim Inasu. Seulement, nous dirons que Rabbi aussi nous enseigne que toutes les femmes pourront se marier, à part la veuve, donc à cause du deuil. Là, nous comprenons que le mariage est interdit pendant la période de deuil.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Mem Gimel Amoud Bet. La Gemara demande, Veletle, le Rabbi aussi la prime. Rabbi aussi ne tient pas compte du fait qu'il faille attendre 3 mois pour ne pas qu'il ait de doute quant à l'enfant qui naîtra par la suite. La Gemara répond, Letle, effectivement, Rabbi aussi ne tient pas compte du fait qu'il faille attendre 3 mois. Donc ici, à ce stade de la Gemara, nous avons 3 avis. L'avis du premier auteur de la Mishnah qui dit que même celles qui avaient été fiancées n'ont pas le droit non plus de se fiancer pendant une période de 3 mois. Et cela pour ne pas qu'on confonde celles qui avaient été fiancées avec celles qui ont été mariées. Et on ne permettra pas non plus les fiançailles de peur qu'elles viennent aussi à se marier. L'avis de Rabbi Yehuda est que celles qui avaient été fiancées ont le droit de se marier. Celles qui avaient été mariées ont même le droit de se fiancer. Mais par contre, quand même, elles n'ont pas le droit de se marier pour ne pas qu'il y ait de doute concernant l'enfant qui naîtra par la suite. Et Rabbi aussi, le troisième avis est qu'il n'y a pas lieu d'attendre 3 mois du tout. Veiba itema, et si tu trouves à redire sur cette réponse, je t'en dirai une autre. Lolamite, toujours pourrais-je te dire que Rabbi aussi tient compte du fait qu'il faille attendre 3 mois. Veema, seulement nous corrigerons les paroles de Rabbi aussi de la manière suivante. Rabbi aussi Omer, kol arusot grushot inasu. Toutes celles qui avaient été fiancées et qui ont été divorcées auront le droit de se marier. Et par conséquent, donc, nous comprendrons les paroles de Rabbi aussi qui dit que pendant la période de deuil, le mariage sera interdit. Mais effectivement, les fiançailles seront toujours permises. Magma a demandé à Rabbi Yehuda, si c'est comme ça, c'est le même avis que Rabbi Yehuda, parce qu'il est évident que Rabbi Yehuda ne discutera pas avec le fait qu'une femme en deuil n'a pas le droit de se marier. Magma répond, il y a quand même une différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ne soit l'IRS le fait qu'une femme mariée, si elle a le droit de se fiancer ou non. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, savoir ne soit mouteret l'IRS. Rabbi Yehuda nous a enseigné clairement qu'une femme mariée, qui avait été mariée, a le droit de se fiancer, même pendant les 3 mois qui suivent la mort de son mari ou son divorce. Rabbi aussi Savar, ne soit sur les ARS, une femme qui avait été mariée n'aura pas le droit de se fiancer de peur qu'elle se marie. Lagmar demande, veut savoir Rabbi aussi ne soit sur les ARS, est-ce que Rabbi aussi pense qu'une femme qui avait été mariée n'a pas le droit de se fiancer? Vatania, voici qu'il a été enseigné dans une maraïta. Rabbi aussi Omer dit, kol hanashim itarsu, toutes les femmes pourront se fiancer, chutzmina almana mipnei haibul, à part celle qui est la veuve, à cause du deuil. Le kama ibul shela, combien, quelle est la longueur de sa période de deuil? Shloshim yom, c'est 30 jours. Vechulan lo inasu, et toutes ne pourront pas se marier. Il s'agit évidemment des femmes qui avaient été mariées auparavant. Achihu lahem shlosha chodashim, jusqu'à ce que passent 3 mois après la mort de leur mari ou à la suite de leur divorce. Nous voyons donc clairement dans la braïta que toutes les femmes auront le droit de se fiancer. À la Gemara demande, hay mai kushia. Où tu vois une question dans cette braïta. Il est ma de katane Rabbi Yossi Omer, kolanashim itas, ou si tu veux dire que c'est du début de l'enseignement de Rabbi Yossi, où Rabbi Yossi nous dit que toutes les femmes pourront se fiancer. Mi alima mi matnitin, de ukimna barusot grushot inasu. Est-ce que la braïta est plus forte que la Mishnah, où on a quand même corrigé les paroles de Rabbi Yossi, et on a interprété les paroles de Rabbi Yossi comme disant, toutes les femmes fiancées qui se sont divorcées pourront se marier. Et en fait, donc le début de l'enseignement de Rabbi Yossi parlerait des femmes qui avaient été fiancées. Hachanami, donc là aussi, nous dirons la même chose. Kol arusot grushot inasu, toutes les femmes qui ont été fiancées et qui ont été divorcées, elles pourront se marier. Sauf bien entendu, la veuve qui est en deuil. Et là, Misefa, seulement nous dirons que la question est de la fin de l'enseignement de Rabbi Yossi, des 4 années, parce qu'il a été enseigné. Bechulan lo inasu, achihu lahem shlosha chodashim. Et toutes ne pourront pas se marier jusqu'à ce que passent 3 mois. Et puisque le début de l'enseignement parle des femmes qui avaient été fiancées. Ici, évidemment, nous parlons des femmes qui avaient été mariées. Insubehu de lo, nous voyons donc qu'elles n'ont pas le droit de se marier. Haïtrousse, chapir d'ami. Par contre, nous voyons qu'elles ont le droit de se fiancer. Amar Rava, Rava dit, Taritz behemahi. On corrigera les paroles de Rabbi aussi de la manière suivante. Rabbi aussi, Omer, Kolarusot, Grushot, Yinasu. Toutes celles qui avaient été fiancées et qui ont été divorcées pourront se marier. Chutz min almana mipnei haibul, à part la veuve, à cause du deuil. Le kama haibul shela. Et quelle est la période de deuil? Quelle est la taille de la période de deuil? Shloshim yom, c'est 30 jours. Ou ne soit lo itarsu. Là, nous corrigeons encore les paroles de Rabbi aussi. Nous disons toutes celles qui avaient été mariées ne pourront pas se fiancer. Achi yelaim shlosha chodashim, jusqu'à ce que passent 3 mois, pour ne pas qu'elles viennent aussi à se marier. La Gemara demande, Valmana mina erusin, mit laibul. Comment est-ce que tu peux dire qu'une veuve, après un fiançaille, n'ait pas le droit de se marier à cause du deuil? Est-ce qu'une veuve des fiançailles à un deuil, Vatan et Rabbi Chia Barami, voici quand c'est Rabbi Chia Barami, histoire où ça, sa femme fiancée, donc celle qui a reçu le Kiddushin, elle est considérée comme étant fiancée. Lo Onen, le fiancé ne sera pas en période de deuil, ne sera pas en deuil intense. C'est la période qui suit la mort d'un proche jusqu'à l'enterrement. Il pourra par conséquent manger des corbanotes s'il est Cohen pendant cette période. Velomitamela. Et il n'aura pas le droit de se rendre impur pour l'enterrer s'il est Cohen. En tout cas, il n'aura pas le mitzvah de le faire. Vechenhi lo onenet. Et elle aussi, elle ne sera pas en période de deuil intense jusqu'à son enterrement si lui meurt. Velomitamalo. Elle ne sera pas tenue non plus de se rendre impur pour l'enterrer. Il n'y a aucun lien de parenté avec lui. Meta et Nayorsha. Si elle meurt, le fiancé ne l'héritera pas. Methu, si le fiancé vient à mourir, Gova Ktuvata, elle encaissera sa Ktuva. En tout cas, nous voyons donc que pour une fiancée, il n'y a pas de deuil si son fiancé vient à mourir. Et là, c'est pourquoi nous revenons en arrière et nous interprétons la Mishnah comme nous l'avons compris au départ. Par conséquent, Rabbi aussi nous dit qu'une femme qui avait été mariée aura le droit de se fiancer tout de suite, sauf si elle est veuve, à cause du deuil. Si, par contre, elle avait été fiancée, elle aura même le droit de se marier. Donc le chidouche de Rabbi aussi est qu'il y a un deuil, qu'en période de deuil, les fiançailles sont interdites. La question avait été, si pendant la période qui précède Tisha B'Av, les fiançailles sont permis, alors pourquoi pendant la période de deuil, les fiançailles sont interdites? Et là, Tanaïhi, il y a une discussion de Tanaïm à ce sujet. De Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Mi Rosh Chodesh Ad Hatanit, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au jeûne de Tisha B'Av, Ha'amematin Miskeem Milisa ou Militen, les gens sont tenus de diminuer leurs affaires et de faire du commerce, Milivnot ou Velintoa, et sont tenus aussi de diminuer la construction et la plantation, ou Miliares ou Milisa, ils sont aussi tenus de s'abstenir de se fiancer et de se marier. Shabbat Shechal Tisha B'Av Betocha, la semaine où tombe Tisha B'Av, Assur le saper ou le chabès, il sera aussi interdit de se raser et de laver les habits. Veye shomrim, et il y en a qui disent, kol hachodesh assur, tout le mois il sera interdit. En d'autres termes, la période de deuil sera observée pendant tout le mois de Av. En tout cas donc, nous voyons dans cette braïta que les fiançailles sont interdites pendant toute la période de deuil, c'est-à-dire nous dirons donc que Rabbi aussi suit l'avis de cette braïta et par conséquent, les fiançailles seront interdites pendant la période de deuil. Il n'y aura pas lieu de poser la question qui a été posée au début de la Gemara, où nous avons déduit que les fiançailles devaient être permis, parce que même là où il y avait un deuil, les fiançailles étaient permis. En là, donc, dans cette Braïta, nous voyons que les fiançailles sont effectivement interdites. Les autres avis, donc, Rabbi Houda et le premier auteur de la Mishnah, penseront comme la première Braïta que nous avons vue au début de, même Gimel Amoud Aleph. De là, nous avons déduit que les fiançailles seraient permis pendant une période de deuil.
La Gemara demande, Matif, là.
Rabash a posé la question suivante. Mimaïd et Liares Mamash. D'où est-ce que tu sais que quand la Braïta interdit les fiançailles au début du mois de Av, il s'agit effectivement des fiançailles. Dilma, les Mebad Souda Terusim ou de Assur. Peut-être que la Braïta nous interdit ici de faire un repas de fiançailles. Ha, Liares, Shapir Dami. Par contre, peut-être que la Braïta nous permettrait les fiançailles tout court, tout simple. La Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, Milissa, quand la Braïta interdit le mariage, l'inasenami, l'imivat sudat nisuinhu de Assur, quand la Braïta nous interdit donc le mariage, il s'agit de faire un repas de mariage, halissa shapir dami, par contre, le mariage tout court serait permis au début du mois de Av, avant le jeûne de Tisha B'Av, c'est impensable. La Gemara répond, Hachi Ashta, voyons voir, bishlama nisuin belo suda. On comprend encore que le mariage sans repas cause aussi une joie. C'est pourquoi nous pouvons très bien comprendre que le mariage même sans repas serait interdit. Et là, Erusin Belo Seuda, par contre des fiançailles sans repas, mi kasimcha, y a-t-il une joie? C'est pourquoi il est plus logique de comprendre que quand la Braïta interdit les fiançailles avant le jeûne de Tisha B'Av, il s'agit simplement du repas de fiançailles. Et là, c'est pourquoi Amar Rabashi dit, toujours pourrais-je te dire que, effectivement, pendant la période qui précède le jeûne de Tisha B'Av, les fiançailles sont permis. Et quand même, nous ne pourrons pas opposer cette période à la période de deuil habituelle, à la suite du décès d'un membre de la famille, parce que Sha'ani avelot chadasha mais avelot ishana. On pourra faire la différence entre un deuil frais et un deuil ancien. Un deuil frais cause une tristesse plus intense. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'engager dans la plus petite joie, même s'il ne s'agit que de simples fiançailles. Par contre, à propos du deuil ancien de la destruction du Beit HaMikdash, les Chachamim n'ont pas interdit les fiançailles. Et deuxième différence, Veshani Avilut de Rabim, mais Avilut de Yachid, et on pourrait aussi faire la différence entre un deuil public et le deuil privé. Le deuil privé cause une tristesse plus intense. Il n'y a pas lieu de s'engager dans une, même dans une petite joie, qui est donc de simples fiançailles. Par contre, quand il s'agit d'un deuil public qui est moins intense, là, les Chachamim ont permis les fiançailles. Donc toujours, finalement donc, l'avis de Rabbi aussi est que les fiançailles seront interdites pendant la période de deuil. Nous avons fini le shiur de Yevamot Dafem Gimel.
Alors, pour laisser un petit peu à l'un des orateurs principaux de la Masechet Yevamot le temps de souffler, je vais le relayer un petit peu. Depuis la Mishnah du Daf Mem Gimel Amud Bet jusqu'à la fin du chapitre. Et comme je vous l'avais dit à la fin du deuxième chapitre, voici, on s'est retrouvés. Alors, nous commençons par la Mishnah. Arba, Achin, Nesuim, Arba, Nashim, Umetu. Quatre frères mariés à quatre femmes étrangères l'une de l'autre. Et ces frères-là sont morts. Alors, nous dit la Mishnah, Imratza Hagadol Shebaem. Si le plus grand des frères en vie veut faire le hiboum aux quatre femmes, cela lui est permis. Mishaya nasui lishtenashim ou met, celui qui était marié à deux femmes, puis il est mort. Biata ochaliseta shalachat mem poteret sarata. Du moment où a été exercé sur une des deux veuves la chalitza ou le hiboum c'est-à-dire la bia, une relation, cela dispense la rivale de quoi que ce soit, de la khalitza et du hiboum.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.